Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le recul des droits des femmes en Afghanistan, les talibans ordonnent aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer des femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille. L'entrée en vigueur aujourd'hui d'une nouvelle allocation chômage en Algérie, elle est destinée aux primo-demandeurs d'emploi. Nous y reviendrons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Coup de projecteur dans votre journal sur l'édition de littérature jeunesse au Maroc. La fondatrice des éditions Yomad, Nadia Essalmi, propose de nombreux ouvrages en français à destination des enfants. Nous écouterons Nadia Essalmi. Le début de la campagne officielle avant le premier tour de la présidentielle le 10 avril prochain en France. Les droits des femmes reculent encore en Afghanistan. Les talibans ont ordonné aux compagnies aériennes de refuser d'embarquer les femmes si elles ne sont pas accompagnées d'un homme de leur famille pour voyager. Une décision prise à l'issue d'une réunion au milieu de semaine dernière entre des représentants des talibans et des autorités de l'immigration de l'aéroport de Kaboul. Cette nouvelle restriction imposée aux Afghanes intervient quelques jours après la décision des talibans de fermer les écoles secondaires pour les filles. Une décision juste après la réouverture qui avait pourtant été annoncé de longue date. Et hier, le ministère de la Promotion de la Vertu et de la Prévention du Vice, c'est son nom, a ordonné la séparation des femmes et des hommes dans les parcs publics de Kaboul en instaurant des jours de visite pour chaque sexe. La nouvelle allocation chômage est versée dès aujourd'hui en Algérie, une allocation de 13 000 dinars par mois. Plus de 500 000 primo-demandeurs d'emploi sont concernés. Prévu dans la loi de finances 2022, ce nouveau dispositif a été mis en œuvre le 25 février dernier. Il est destiné aux personnes qui n'ont jamais travaillé et qui sont âgées de 19 à 40 ans. Nous y revenons avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
C'est la première fois qu'une allocation chômage est versée donc à des primo-demandeurs d'emploi. La mesure va être appliquée à partir du 28 mars et elle sera versée dans les bureaux de poste chaque 28 mars selon le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youssef Chorfa. Donc pour bénéficier de cette allocation, dont le montant est à peu près de 13 000 dinars algériens, le primo-demandeur d'emploi doit remplir plusieurs conditions qui ont été détaillées dans un décret qui a été publié il y a quelques jours. Le titulaire doit avoir la nationalité algérienne, réside en Algérie et âgé entre 1 et 40 ans. Il est aussi exigé d'être inscrit comme chômeur demandeur d'emploi auprès des services de l'ANEM, qui est l'Agence nationale de l'emploi, depuis au moins 6 mois, ne pas disposer d'un revenu, quelle que soit sa nature, justifier sa situation vis-à-vis du service militaire, service national en Algérie, et ne pas être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur et de formation professionnelle. Donc voilà les conditions contenues dans ce décret. Le bénéficiaire ne doit pas avoir déjà bénéficié du dispositif public de soutien à la création et à l'extension d'activités, d'aide et d'insertion professionnelle et d'aide sociale, alors que le conjoint ne doit disposer d'aucun revenu, quelle que soit sa nature. Les détenus ayant purgé leur peine et ne disposant pas de revenus bénéficieront également de cette allocation. Donc voilà un peu ce qui est précisé dans le décret qui a donc détaillé les conditions pour bénéficier de l'allocation de chômage qui sera donc versée à partir du 28 mars.
Et cela concerne près de 600 000 personnes ?
Oui, absolument, 600 000 personnes qui sont inscrites auprès des services de l'ANEM, qui est l'Agence nationale de l'emploi. Donc ça ne concerne pas donc les gens qui ne sont pas inscrits comme demandeurs d'emploi, parce que vous savez qu'en Algérie, il y a un secteur informel qui emploie beaucoup de jeunes. Certains n'ont pas de diplôme, certains ont terminé la formation professionnelle, mais ils ne sont pas inscrits au niveau de l'ANEM. Et donc officiellement, c'est seulement ceux qui sont inscrits au niveau de cette agence qui répertorie les demandeurs d'emploi.
Et ces personnes vont bénéficier de prestations de la sécurité sociale ?
Absolument, parce que ça c'est un autre problème, parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, demandeurs d'emploi, qui n'ont pas de couverture sociale, puisque une fois sortis de l'université pour certains, c'est vrai qu'il y a une couverture sociale au niveau de l'université ou au niveau des centres de formation, mais une fois chômeurs, ils n'ont pas cette couverture. Et aussi donc cette allocation chômage permet d'abord de savoir qui sont réellement les primo-demandeurs d'emploi, et également de le permettre d'être couvert sur le plan social, ce qui est une évolution donc, dans le système de sécurité sociale en Algérie.
Cette réforme, c'était une demande de la population, sachant que le chômage touche durement les jeunes en Algérie.
Oui, les jeunes et surtout les jeunes diplômés. C'est vrai qu'en Algérie, il y a beaucoup de dispositions d'insertion des jeunes à travers les dispositions, par exemple, appelées en sèche, qui donc permet aux entreprises, où on gêne d'avoir des microcrédits pour créer des entreprises, mais ce n'est pas suffisant. Il s'agit donc de soutenir ceux qui n'ont pas pu avoir ces crédits ou microcrédits pour créer des entreprises. Et c'était également une des promesses du président Abdelmadjid Tebboune en 2019. Il avait promis donc d'aider les jeunes et de laisser tenir, surtout les jeunes chômeurs, pour qu'ils puissent vivre dignement. C'est un peu le terme qu'il a utilisé. Mesure temporaire, en attendant que le jeune trouve un emploi stable et durable. Mais ça aide à alléger un peu les souffrances des jeunes, qui sont assez nombreux, notamment les diplômés sortis des universités, certains avec des masters, d'autres avec des doctorats, d'autres avec des licences, qui n'arrivent pas à trouver des postes d'emploi dans le secteur public ou le secteur privé.
C'est une mesure temporaire, mais c'est une mesure qui sera effective jusqu'à ce que la personne trouve un emploi ?
Absolument, ça veut dire qu'une fois la personne trouve un emploi durable et stable, l'allocation ne sera plus versée. Évidemment, lorsqu'il y a des abus, il y aura des poursuites judiciaires, mais les personnes sont répertoriées sur un listing national auprès de l'ANEM. L'ANEM a donc une idée de ceux qui bénéficient et évidemment l'ANEM a aussi l'information par rapport à ceux qui trouvent un emploi. Mais en attendant donc de trouver un emploi, en attendant aussi la reprise économique en Algérie. L'Algérie a beaucoup souffert de la pandémie de Covid-19. Il y a eu beaucoup d'arrêts aussi en 2019 en raison du Hirak, du mouvement de contestation populaire, de la crise. Donc il y a un cumul de plusieurs raisons qui ont fait que la machine économique s'est arrêtée. Donc les possibilités de création de postes d'emploi, notamment dans le secteur privé, ont été faibles. Et donc en attendant qu'il y ait une véritable reprise, cette allocation permettra d'alléger un peu les jeunes chômeurs, si vous voulez, de réduire les disparités sociales.
Et quels sont les secteurs qui recrutent aujourd'hui en Algérie ?
C'est surtout dans le secteur du bâtiment, hein, parce que le bâtiment est en train de reprendre doucement, le secteur des travaux publics, le secteur des services, notamment le secteur touristique, puisqu'il y a maintenant une relance du secteur, notamment dans le sud du pays, et le secteur de la petite et moyenne entreprise, surtout pour les industries alimentaires. Donc c'est un peu ces secteurs, évidemment, il y a des recrutements au niveau de l'État, surtout dans le secteur pétrolier et gazier dans le sud, et aussi dans les secteurs qui relèvent de la fonction publique, même si à ce niveau-là, les recrutements sont assez faibles, notamment dans le secteur, par exemple, des douanes, de la police ou de l'administration publique.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie. Le premier ministre libanais Najib Mikati appelle le ministre algérien des Affaires étrangères Hamtam Lamamra à exempter le Liban de la décision algérienne d'arrêter l'exportation de sucre. Un appel alors que la sécurité alimentaire du Liban est menacée suite à l'invasion russe de l'Ukraine. Cette agression de l'Ukraine par la Russie, un haut responsable ukrainien dit ne pas s'attendre à des avancées majeures lors des pourparlers de paix en Turquie. Ce lundi, je ne pense pas qu'il y aura une quelconque avancée sur les principaux au sujet, selon les mots d'un conseiller du ministre de l'Intérieur ukrainien. Deux candidats à l'exil sont morts noyés au large du Maroc. C'est arrivé après le naufrage de leur embarcation. Par ailleurs, 200 autres personnes ont été interpellées dans le sud du royaume alors qu'elles s'apprêtaient à embarquer pour l'archipel espagnol des Canaries. Selon les derniers chiffres du ministère espagnol de l'Intérieur, plus de 40 000 migrants, en grande partie en provenance du Maroc, sont arrivés en 2021 par la mer dans le pays ainsi que dans les archipels des Baléares et des Canaries. Le début de la campagne officielle avant le premier tour de la présidentielle le 10 avril prochain en France. Les 12 candidats doivent désormais bénéficier d'un temps de parole égal. Les radios et télévisions peuvent diffuser des clips de campagne. Les Français recevront bientôt les professions de foi des prétendants à l'Élysée. Coup de projecteur sur l'édition de littérature jeunesse au Maroc avec la fondatrice des éditions Yomad, Nadia Essalmi. À son catalogue de nombreux ouvrages en français à destination des enfants, l'éditrice qui consacre sa vie à la promotion de la lecture à travers ses activités associatives et l'organisation d'un festival itinérant. Nadia Essalmi, que je vous propose d'écouter.
C'est en 1998, alors que j'étais au Salon de Paris pour représenter une revue que je gérais à l'époque. Et donc, on avait un stand commun avec quelques éditeurs marocains. Et donc, on avait des visiteurs qui venaient, des lecteurs, etc. Et ils demandaient des livres pour enfants. On n'en avait pas un seul sur le stand. Et là, le déclic se fait. Et voilà, l'idée a germé comme ça. Et puis, j'ai créé la première maison d'édition spécialisée dans un livre pour enfants au Maroc. Voilà comment ça s'est passé.
Et vous avez demandé à de grands auteurs d'écrire pour la jeunesse. C'était une première pour eux.
Oui, absolument. Donc, Drish Raibi a signé mes trois premiers livres, Je l'avais rencontrée, j'avais fait mon travail universitaire sur son œuvre, et donc je lui ai dit que j'allais créer une maison d'édition pour enfants. Il m'a dit « je serai ton premier auteur ». Franchement, c'était pour moi inespéré de jeune éditrice qui commence, qui connaît pas très bien encore les auteurs, les stars, on va dire, hein, parce que les stylistes, c'est pas n'importe qui. Et donc, commencer mon catalogue avec un nom pareil, ça m'a permis d'avoir un raccourci énorme et la maison s'est vite fait connaître. Ensuite, j'ai demandé à Fouad Laroui qui me disait « Ah non, moi, je peux pas écrire pour les enfants, j'ai pas d'enfants d'abord, je sais pas m'adresser aux enfants. » Et ben, j'ai fini par le convaincre et finalement, on a fait deux livres aussi ensemble. Et puis, a suivi Aplatef Flady, Jocelyne Labi, Zakia Daoud, et bien d'autres, voilà.
Ces livres ont été lus par plusieurs générations d'enfants.
Absolument, oui, tout à fait. Et puis, comme il y avait un manque énorme, ils ont eu leur place aussi dans le cursus scolaire. Beaucoup d'écoles les ont pris en activité parascolaire. Donc, franchement, je suis très contente. Mais en plus de ça, je fais beaucoup d'activités autour du livre pour donner justement le goût de la lecture et éduquer les enfants à la lecture et pourquoi pas les parents aussi.
Vous avez notamment une activité auprès des jeunes défavorisés au Maroc pour les sensibiliser à la lecture?
Oui, tout à fait, parce que voilà, l'activité s'appelle Lire pour grandir. L'activité consiste à faire des séances de lecture gratuites pour les enfants, c'est tous les dimanches matin, et ça a eu un succès énorme. Et j'ai fini par dupliquer l'événement dans 15 villes du Maroc. Alors, en fait, l'idée, c'est que tous les dimanches de 11h à 1h, beaucoup d'enfants lisent en même temps dans plusieurs villes. C'est une activité où je reçois les enfants avec leurs parents. Si vous voulez, le but, c'est d'installer une tradition de lecture dans les domiciles, dans les familles, parce que quand les enfants lisent avec leurs parents dans la séance que j'organise, eh ben ils refont la même chose dans leur maison. Pas tous, mais en tout cas pour moi, si j'arrive à gagner un seul lecteur, c'est déjà tout bénéf, comme on dit.
Vous avez le sentiment d'aider aussi à faire connaître la langue française au Maroc à travers vos livres?
Mais bien sûr, parce que la culture ou la littérature en particulier, elle crée des ponts. Vous savez, la francophonie, le français, il est parlé dans plusieurs pays du monde. Et donc, notamment en Maroc, où le français est la deuxième langue. Beaucoup de gens parlent le français ici. Et donc, moi, je publie plus en français qu'en arabe. Et je pense que cette langue, elle m'a permis, et a permis aussi aux lecteurs marocains de créer des ponts entre nos deux cultures, c'est-à-dire la culture française et la culture marocaine. Et c'est ça la richesse, c'est ces ponts. Ces ponts qui mènent aussi au vivre ensemble, ces ponts qui détruisent, si vous voulez, tous les préjugés, tout ce qu'on peut penser l'un de l'autre.
Et le prochain événement important que vous organisez au Maroc, c'est un grand festival qui aura lieu au mois d'octobre dans la ville de Fès.
Absolument. Voilà, c'est toujours dans l'esprit de la création de ponts. Alors, cet événement qui est maintenant à sa 4e édition, ça s'appelle Littérature itinérante, et comme son nom l'indique, elle voyage à travers le Maroc, c'est-à-dire que chaque année, une édition a lieu dans une ville différente. Le concept est d'inviter 40 écrivains, que je mets, entre guillemets, je dis dans la rue, mais c'est pas vraiment dans la rue, c'est toujours dans un lieu public, symbolique, qui représente soit le patrimoine marocain, soit la culture marocaine, soit comme la dernière édition qui a eu lieu à Koutoubia. La Koutoubia, comme son nom l'indique aussi, c'est Koutoub, c'est livre, ça veut dire c'est un lieu où tous les métiers du livre s'exerçaient il y a 10 siècles. Et donc nous avons ramené le livre 10 siècles après 10 siècles d'absence à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est une fierté pour nous. Et donc, je disais, pour les 40 écrivains, ils viennent un peu de partout, plusieurs pays du monde. Et donc, cette rencontre, c'est comme si on tissait une toile entre les différentes cultures. Vous avez l'Algérien, le Tunisien, le Français, l'Anglais, l'Égyptien, le Palestinien. Voilà, et cette année, l'Afrique est à l'honneur. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Mali, Congo, etc. Voilà, c'est ça, parce que ce continent, il est un peu oublié. Et je veux qu'il soit aussi à l'honneur pour aussi faire connaître, si vous voulez, cette littérature qui est presque absente chez nous. Pour des raisons qu'on ignore, peut-être la mauvaise circulation du livre, ou je n'en sais rien, mais en tout cas, on essaye d'installer cette littérature au Maroc.
Nadia Essalmi, fondatrice des éditions Yomad, elle répondait à Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient, il est 12h16, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Roger Coury. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Amine Saha, maire adjoint de la Courneuve, en charge de la tranquillité publique, vice-président pleine commune et candidat aux législatives en Seine-Saint-Denis. Émission présentée par Loïc Barrière. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.